Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Entre Europe et Russie, l'espace ottoman.
Quatre fois plus grand que le château de Versailles, le nouveau palais présidentiel surplombe Ankara, la capitale turque. L'œuvre a été pensée et commandée par le président Erdogan. L'homme qui se présentait comme un libéral pro-européen, un islamiste modéré, ne cache plus ses envies de renouer avec le prestige de l'Empire ottoman, disparu il y a près de 100 ans.
En accentuant dangereusement les lignes de fracture à l'intérieur du pays et en exploitant les peurs qu'elles suscitent, Erdogan réussit à fixer une bonne moitié de l'électorat turc, mais il lui faut aussi porter un projet de grandeur. La position géographique stratégique de la Turquie lui est pour cela d'un grand secours. On sait qu'elle est un verrou régional indispensable pour le vieux système de défense atlantique et maintenant pour l'Union européenne. Mais pour l'exaltation d'un projet de grandeur, il faut aussi de l'ancienneté. Dans la région, la Turquie, comme la Russie, comme l'Iran, hérite d'un passé qu'il est habile de réveiller si on veut se hausser du col. Toute une imagerie est alors mobilisée. Poutine s'est constitué, par exemple, pour recevoir un décor blanc et or inspiré des tsars du XVIIIe siècle. Erdogan, lui, s'entoure de tout un apparat censé rappeler le cérémonial qui entourait les sultans. On parle aujourd'hui de soft power, de pouvoir de suggestion. On peut rappeler que le film turc pionnier, en 1914, avait choisi de montrer la destruction d'un monument du vieil ennemi russe. Ce n'était pas innocent. Aujourd'hui, les séries télévisées turques occupent une place considérable dans le monde. Et quand l'une d'elles est consacrée à l'époque de Soliman, sous le titre « Le siècle magnifique », elle est vue dans 40 pays, particulièrement dans ceux qu'occupait l'Empire, l'espace ottoman, se reconstitue au moins ainsi, et ce n'est pas rien.
La marche de l'histoire. France Inter. Jean Lebrun.
François Georgeon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous travaillez depuis longtemps sur le monde turc et ottoman. Vous venez de faire paraître avec toute une équipe sous l'enseigne des éditions Fayard, un dictionnaire de l'Empire ottoman, avec feu Gilles Weinstein, avec Nicolas Vatin, avec Elisabetta Borromeo. Je vous propose d'ailleurs, on va feuilleter quelques articles de ce dictionnaire, que vous commenciez par l'article France. Moi, je vais vous poser des questions très naïves, parce que ma connaissance de l'Empire ottoman est courte, et pourtant, vous montrez que la fréquentation de l'Empire ottoman par la France est longue.
Bien sûr, elle remonte au XVe siècle, et surtout, on en a retenu la fameuse alliance entre François Ier et Soliman le Magnifique au XVIe siècle. C'était une alliance qui était dirigée contre Charles Quint, et c'était une alliance contre nature. C'était le roi très chrétien qui s'alliait avec le sultan ottoman de l'islam.
Une alliance de revers aussi.
Une alliance de revers, tout à fait. Et ce qui fait que, depuis cette époque, on peut dire que la France a eu une position un peu privilégiée dans l'Empire ottoman. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. L'avantage, peut-être, c'est que ce ne sont pas des voisins. Donc que les relations se sont un petit peu éloignées de ce point de vue-là. Et puis, on peut dire que le français, surtout, est devenu la langue dominante dans l'Empire ottoman à partir du milieu du XIXe siècle, et qu'ensuite, dans les écoles, dans la presse, etc., on a beaucoup utilisé le français. Vers 1900, un ottoman cultivé connaît le français, et généralement, il le connaît très bien.
Il y a aussi une connaissance livresque, une connaissance universitaire.
Bien sûr, les Français ont beaucoup voyagé dans l'Empire ottoman, et puis ils se sont intéressés à la langue et ensuite à l'histoire de l'Empire ottoman, ce qui fait que les jeunes de langue, qui étaient des interprètes que l'on formait pour pouvoir communiquer avec les Ottomans, avec la cour ottomane, avec le palais, avec l'ensemble de l'appareil politique, si vous voulez.
Avec le bureau de traduction de la Sublime Porte.
Exactement. C'est comme ça qu'à l'époque de la Révolution, on a fondé ce qui est devenu l'INALCO, l'école des langues, si vous voulez. Langzo, on disait autrefois. Et donc, l'intérêt pour la langue ne s'est pas démenti, en fait. Et il y a une tradition turcologique en France qui est assez forte. Et puis, beaucoup de travaux ensuite ont suivi, historiques, de toutes sortes.
Alors, vous me parlez de tradition turcologique, mais turc, ottoman, pardonnez encore la naïveté de mes questions, article ottomans, partisans d'Osman, qui occupent toute l'Anatolie peu à peu, depuis les montagnes jusqu'aux côtes dont les Byzantins vont peu à peu abandonner le contrôle. Nous sommes au 12e, 13e siècle. Ça, oui. C'est l'origine des Ottomans.
C'est l'origine des Ottomans. Le nom est donc dynastique. C'est comme les Habsbourg, si vous voulez. Le nom est dynastique. On l'a déformé en français Osman en Ottoman. Donc, ça remonte en 1300, à peu près. Et la dynastie a continué à s'appeler Ottoman jusqu'à la fin de l'Empire, donc en 1923. Donc, c'est une longue continuité. C'est une construction politique, donc dynastique. Et la dynastie, d'ailleurs, a joué un rôle fondamental dans l'Empire, puisque, en fait, on est resté dans la même famille, si vous voulez. Le pouvoir restait dans la même famille.
Ces Ottomans sont installés en Europe. Il y a un article Europe. Alors, pour vous, il est assez naturel que les Ottomans soient là, dans une partie de l'Europe. Il y a aussi toute une tradition européenne qui juge que les Ottomans n'avaient pas leur place en Europe.
Oui, tout à fait, mais la présence ottomane en Europe est ancienne. Elle remonte à peu près au milieu du XIVe siècle, c'est-à-dire en fait un siècle avant la prise de Constantinople. Vous voyez, donc, il y a une antériorité, en réalité, de l'Empire ottoman en Europe. La deuxième capitale de l'Empire, c'était la ville qu'on appelle en français Andrinople, Edirne en turc. Donc, il y a une présence très forte des Ottomans dans les Balkans. Et je dois dire que c'est pas une marge pour l'Empire ottoman. C'est important de comprendre ça, c'est-à-dire c'est un peu le cœur de l'Empire. C'est la région la plus riche, ouverte sur l'Occident, etc.
Mais revenons au mot turc, article. Turc. Alors, les Turcs, pour les Ottomans, soyez honnêtes, François Georgeon, ce sont des gens rustres, de figures horribles, de comportements insubordonnés. C'est d'ailleurs pour ça que nous appelons volontiers les Ottomans Turcs, parce que c'est les dénigrer.
En fait, Turc, c'est un mot qui relève d'une ethnie. Et d'une langue. Et elle est très ancienne, puisque les premières traces de la langue turque remonte au 8e siècle. Ce sont des stèles, alors qu'ils sont très loin de l'Anatolie, qui se trouve au sud du lac Baïkal, donc on est très loin. Et les Turcs, ensuite, ont migré vers l'ouest, et ils ont installé en Anatolie, et ils ont fondé l'Empire ottoman, mais avec beaucoup d'autres peuples inclus dans cet empire, et notamment, bien sûr, les Byzantins, les chrétientés orientales, etc.
Parce que tout se fait, si j'en crois beaucoup d'auteurs de votre dictionnaire de l'Empire ottoman, davantage encore par l'échange que par la conquête. Dont acte. Alors, notre sujet va confronter l'Empire ottoman et la Russie. Nous en venons donc par étapes à l'article Russie. Voici, j'évoquais tout à l'heure le feuilleton télévisé, le siècle magnifique, Soliman, le générique, mais c'est un générique de l'adaptation russe.
В основу сериала положены исторические события. Халид Эргенч, Вахиде Перчин, Озан Гювен, Мехмед Гюнсюр, Мирве Балугур, Нурфи Тихоглу, Пелин Бекироглу, Бирак Тюзюнатач, Арас Булут Янемли...
Mais je vous avais prévenu, hein, ma vision est naïve. Avant l'article Russie, on va faire un détour par l'article Harem. Figurez-vous que dans le Harem de Soliman, figure des Russes. Alors la maîtresse du Harem presse toutes les filles, dont les Russes.
Allez les filles, dépêchez-vous. Entrez à l'intérieur. Dépêchez-vous. Mettez vos chemises de nuit et dormez. Demain, de nouveaux vêtements vous seront distribués. Allez.
Alex, misin, Alexandra, misin, nesin? Kırarım o kemiklerini. Al geceli yerden.
Alex ou Alexandra, peu importe. Je vais te briser les os. Ramasse cette chemise de nuit.
Hiçbirinizi affetmem ona.
Je ne serai tolérante envers aucune de vous.
Burası Topkapı Sarayı'dır.
Nous sommes au palais de Topkapi. Il s'agit du palais de la dynastie ottomane, celle qui a parlé russe avec toi et la sultane, la mère de notre sultan.
Dilimizin nereden geliyor?
Notre langue.
Sizin gibi köle olarak gelmedi bu saraya. Sultan olarak geldi.
Celle qui a parlé russe avec toi est la sultane, la mère de notre sultan.
Allons bon parler russe dans le harem de Topkapi, le deuxième harem de Soliman. Il y Il est vrai que vous insistez toujours, François Georgeon, sur les échanges et pas seulement sur la conquête. Vous avez vu d'ailleurs que la relation avec la Russie passait par la Crimée.
Oui, bien sûr. C'est la Crimée, c'est la mer Noire, c'est l'ouverture sur la mer Noire. Donc pour les Russes, c'était le débouché, si vous voulez. C'était le point de contact avec l'Empire ottoman. La Crimée est un khanat, un khanat, si vous voulez, un principauté qui est vassal de l'Empire ottoman jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et les Tatars de Crimée, qui sont un peuple turc sur le plan ethnique donc et linguistique, avaient l'habitude de faire des razzias en Russie et de faire des esclaves. Et c'est à cela que fait allusion ce film. En réalité, cette série, ils ont, semble-t-il, mis la main sur une esclave qui va devenir très importante, la femme, la concubine, et ensuite la femme de Soliman le Magnifique, que nous appelons Roxolane et que les Turcs appelaient Hürrem.
Dites-moi, c'est plus tard que les tensions vont devenir de plus en plus fortes avec la Russie, avec deux motifs. L'accès aux mers chaudes par les détroits, qui vont être contrôlés exclusivement de la prise de Constantinople à 1774 par les Turcs, mais aussi pour des motifs religieux, ce qu'on imagine moins aujourd'hui. La revendication par les chrétiens orthodoxes de Russie de Constantinople.
Oui, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de ces deux grands empires, c'est que, en fait, ils atteignent une maturité à peu près au même moment, c'est-à-dire au XVIe siècle. À Soliman le Magnifique correspond Ivan le Terrible, donc qui accroît considérablement l'Empire, puisqu'il s'empare de Kazan, d'Astrakhan, etc. Et donc, là, les relations, effectivement, sont relativement pacifiques. Il y a beaucoup d'échanges commerciaux. Et puis, les choses deviennent plus graves pour l'Empire ottoman à partir du XVIIIe siècle, à partir du moment où l'expansion russe se dirige vers le sud, vers les steppes qui sont au nord de la mer Noire, vers la mer Noire, et puis le débouché de la mer Noire, c'est-à-dire les détroits et Constantinople. Et effectivement, pour eux, c'est la porte. Hein. C'est Dostoïevski qui disait « Nous voulons avoir accès à la porte de notre empire, et c'est Constantinople, les détroits. » Et là, il y a les Turcs qui se rencontrent avec les Ottomans. Donc voilà, c'est presque toute l'histoire, si vous voulez, des relations entre Turcs et Russes qui est définie par ces quelques mots. Détroit, Constantinople, orthodoxie. Voilà, on a à peu près la triade de...
Oui, mais enfin, moi je renvoie à l'article Russie du dictionnaire de l'Empire ottoman, où je vois une description de la guerre de 1676-1681, de la guerre de 1768-1774, de la guerre de 1806-1812, de la guerre de 1828-1829, à la suite de laquelle, d'ailleurs, la Grèce va finir par obtenir son indépendance, les Balkans commencent à être démembrés, protectorat russe sur la Serbie et la Moldavie, Valachie. Et on n'a pas parlé de celle qui est la moins méconnue en France, qui est la guerre de Crimée, et qui commence par un débat sur la protection des lieux saints, parce que non seulement les Russes veulent récupérer Constantinople, mais ils disent qu'ils ont la préséance quant à la protection des lieux saints qui sont sur le territoire ottoman.
Alors c'était la France qui était considérée comme la protectrice des chrétiens, en particulier des catholiques, bien sûr, au Proche-Orient. Et les Russes, à partir de Catherine II, vont jouer la carte de l'orthodoxie. Et donc ils vont se présenter comme les protecteurs des orthodoxes de l'Empire, qui sont fort nombreux, en particulier dans les Balkans, c'est-à-dire à la fois les Grecs et en même temps les Slaves, Bulgares, Serbes, etc. Et donc cette confrontation, effectivement, va... prendre d'abord ce tour, qui va contrôler les lieux saints, qui a la préséance sur les lieux saints, etc. Mais au-delà de cette querelle de chapelle, si je peux dire, en fait, il y a eu évidemment bien d'autres motifs qui poussaient la Russie vers l'Empire ottoman et justement faire sauter ce verrou des détroits.
Alors les protagonistes, les voici présentés, les Turcs, pour une fois, ne sont pas isolés dans leur conflit avec la Russie.
Napoléon III, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français.
Et ?
Sa gracieuse majesté Victoria Ier, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes.
Contre ?
Nicolas Ier, autocrate de toutes les Russies, tsar de Pologne et de Sibérie, dominateur des terres hyperboréennes.
6 mois se sont déjà écoulés depuis que le premier boulet tiré des bastions de Sébastopol a passé en sifflant. Et depuis, des milliers de bombes ont volé des bastions vers les tranchées et des tranchées vers les bastions. Et l'ange de la mort n'a cessé de planer au-dessus d'eux. Depuis 6 mois, que de croix de Sainte-Anne et de Saint-Vladimir, que de linceuls de toile et de cercueils roses.
Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян, знать не можешь боли своей, может, крылья слов...
Des foules d'ennemis divers, avec leurs désirs plus divers encore, sont venus de différentes parties du monde. Et ils se hâtent, avec une même ardeur, vers ce lieu qui leur est fatal. Le problème que n'ont pas résolu les diplomates ne le sera pas plus par la poudre ni par le sang. Je tiens la guerre pour une folie, mais vous qui avez vu les défenseurs de Sébastopol, vous avez compris qu'il ne sera pas possible à l'ennemi de prendre Sébastopol, et vous emportez la conviction que cette épopée, dont le héros est le peuple russe, laissera longtemps en Russie de terribles vestiges. C'est de Bakhtchisaraï, en Crimée, qu'un élève officier volontaire, chef de batterie au 4e bastion, Léon Tolstoï, écrivait ces lignes pour une revue littéraire de Saint-Pétersbourg.
Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'Empire ottoman et la Russie à l'occasion de la publication du dictionnaire de l'Empire ottoman dont un des animateurs, François Georgeon, est avec nous. Il y a beaucoup d'articles, on continue de feuilleter votre dictionnaire. On trouve sur la toile beaucoup de ressources historiques aussi. Alors nous n'avons pas pu identifier l'auteur de « Adieu que la guerre de Crimée est jolie ». Je soupçonne, mais si c'est lui qu'il se manifeste, on lui rendra grâce, un jeune professeur, youtubeur, qui, il me semble, avait le projet de fabriquer 2 ou 3 très brefs documentaires sur la guerre de Crimée. Et celui-là n'était pas si mal senti. Sauf qu'à vous entendre, vous allez le décevoir, François Georgeon, la guerre de Crimée n'est pas aussi importante que le souvenir parisien ne veut bien le manifester, Sébastopol, Crimée...
L'Allemand, pas loin d'ici.
L'Allemagne, pas loin d'ici.
Voilà. Si, elle est importante, et en particulier, elle a été meurtrière. Elle se termine par une victoire des alliés, c'est-à-dire des Anglais, des Français et des Ottomans. Les Ottomans, ça ouvre pour les Ottomans une période qui est vraiment une période de où ils font partie du concert européen, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a au traité de Paris qui termine cette guerre, ils se rangent, ils sont considérés comme faisant partie du concert européen. Mais c'est vrai que ça va très vite, les avantages de cette guerre vont très vite être contournés par les Russes qui reviennent dès 1871 après la défaite de la France.
Oui, parce qu'on était dans les années 1850 avec la guerre de Crimée.
Voilà.
Et dans les années 1870, alors,
ils reviennent,
époque beaucoup plus importante, voilà, peut-être.
Ils reviennent en force, en particulier dans la mer Noire. Et par conséquent, à nouveau, Russes et Ottomans se trouvent face à face. Et cette fois, les Ottomans ne vont plus trouver d'alliés. Et ça nous amène à la guerre de 1878-1878, qui est un véritable tournant dans l'histoire de peut-être de l'Europe, mais surtout de l'Empire ottoman, puisqu'il va perdre une grande partie de ses possessions dans les Balkans et également en Asie mineure, en Anatolie orientale, où les Russes vont occuper 2 provinces.
Voilà. Alors si on parle des Balkans, c'est le moment où la Bosnie-Herzégovine passe sous le protectorat des Habsbourg. C'est le moment où la Roumanie, on parlait tout à l'heure de la Moldavie et de la Valachie, petite principauté, devient un royaume indépendant sous l'égide de Carole. La Bulgarie devient un royaume aussi. Ça n'est pas sans importance. C'est le déplacement du centre de gravité de l'Empire ottoman consécutif a aussi son importance. Est-ce que vous me permettez une dernière facétie ? Le divan, c'est le nom qu'on donne hein, à l'administration de l'Empire.
Tout à fait, tout à fait.
Se creuse de plus en plus profond. Je commence à parler comme Frédéric Mitterrand. C'est lui qui va décrire le moment crépusculaire auquel nous sommes parvenus.
Constantinople se débat dans les contradictions de la longue agonie de l'Empire ottoman, sur laquelle se penche un bien étrange médecin, le sultan Abdulhamid. Rescapé des étranglements entre frères qui lubrifient silencieusement l'ordre des successions dans sa famille, l'incontournable despote, entouré d'une cour à l'exotisme raffiné, incarne brillamment le rôle du méchant, vindicatif et sournois que le racisme à peine dissimulé de l'opinion internationale attend de lui. C'est au demeurant un homme de très bon ton, de mœurs réglées, qui n'abuse pas des belles sultanes et nourrit des ambitions de modernisme et de progrès pour son empire.
Que pense-t-on de la Turquie dans les contrées d'où tu viens ?
Que c'est un pays en retard de 2 ou 3 siècles où règne la corruption la plus éhontée. Je voudrais vous aider à faire de votre merveilleux empire un pays propre. Et il me semble que nous pourrions commencer par introduire ici l'instruction publique, l'hygiène et l'électricité dont bénéficient les peuples que je viens d'étudier.
Toutes ces réformes ne serviront à rien, votre grandeur, si vous n'agissez pas contre les fonctionnaires qui vous volent sans arrêt et qui sont aussi nuisibles que les chiens qui rôdent dans Constantinople.
Ça, c'est encore une curiosité. C'est un film qui s'appelle L'esclave blanche, après qu'on a entendu sur 2 ou 3 périodes Frédéric Mitterrand, un film de 1939 qui n'a pas dû être diffusé beaucoup à cause de la drôle de guerre, qui est signé Marc Sorkin, et où le rôle du sultan est joué par Dalio soi-même. Le sultan qui a le sentiment d'un différentiel de civilisation. Le mot civilisation est très à la mode dans ces années-là.
Le mot civilisation est très à la mode. Alors, le sultan Et aux commandes de l'Empire depuis quelques mois, quand se déclenche cette guerre russo-turque, il va la perdre et il va en profiter, disons, pour, d'une part, l'Empire devient plus musulman, hein, d'une manière mécanique, en quelque sorte, il perd une grande partie de ses possessions en Europe. Et d'autre part, il ne faut pas oublier quelque chose de très important dans ces rapports russo-turcs, c'est que quand les Russes avancent, ils refoulent devant eux toute une population musulmane, qui peuvent être, ça a commencé avec les Tatars de Crimée à la fin du XVIIIe siècle, ensuite ça a continué avec les Caucasiens, il y a les Tcherkesses au moment de la conquête russe du Caucase. Et puis, en 1878, alors ce sont surtout des réfugiés des Balkans. Les réfugiés au Moyen-Orient, c'est pas aujourd'hui que ça commence. C'est un problème beaucoup plus ancien et qui va amener dans l'Empire ottoman et ensuite dans ce qui va être la Turquie, des millions de ceux qu'on appelle Mouhajir, c'est-à-dire des réfugiés, effectivement.
Alors, oui, mais en même temps, il y a l'attrait de l'Occident à cause de ce différentiel de civilisation. Et si je consulte toujours votre dictionnaire de l'Empire ottoman, il y a occidentalisation.
Absolument, et elle se poursuit avec ce même sultan qui joue un petit peu la carte de l'islam en essayant de profiter justement de ce nouvel équilibre qui est lié à la guerre, donc de 1877-1878. Et en fait, l'occidentalisation qui avait commencé à l'époque de qu'on appelle les Tanzimates, milieu 19e, se poursuit hein, sous Abdelhamid. Et un des symboles que l'on peut prendre, c'est de cette proximité de l'Occident et de cet intérêt pour l'Occident, c'est l'arrivée de l'Orient Express. C'est l'arrivée de ce fameux train mythique qui arrive à Istanbul à la fin des années 1880 et qui va Oui, c'est un symbole. On va construire de grands hôtels à l'européenne, comme l'Opéra Palace, par exemple.
Qui a fait l'objet d'un joli livre récemment, voilà. Enfin, d'une jolie traduction.
Donc, l'occidentalisation, elle continue dans l'architecture, elle se poursuit aussi dans les esprits, parce qu'il y a un effort dans l'enseignement, la presse, etc.
Mais la guerre de 77-78 a été l'occasion d'appel à la solidarité avec les Turcs d'Asie centrale, à qui on disait « Vous êtes sous la tutelle russe, mais souvenez-vous que vous êtes musulman ». La Russie va connaître en 1905 un grave échec dans sa guerre contre le Japon, et ça va ouvrir des perspectives de ce côté-là aux Ottomans. Il y a, à côté de l'article « Occidentalisation », un article « Pan-turquisme ». C'est à ce moment-là que la pensée pan-turque, qui joue toujours un rôle dans le conflit russo-turc d'aujourd'hui, commence à se développer.
Alors, en effet, on commence à prendre conscience que chez les Turcs ottomans, prendre conscience qu'ils ont une particularité dans l'islam, hein, qu'ils ne sont pas des Arabes, qu'ils ne sont pas des Persans, qu'ils ont une... Et puis, en même temps, chez les musulmans de Russie, il y a le même phénomène qui se produit, c'est-à-dire un phénomène qui sont gagnés par l'identité, des phénomènes d'identité, etc. Et ce sont ceux qui mènent le jeu, ce sont les Tatars de la Volga. Ils sont au contact avec les Russes depuis longtemps, il y a une bourgeoisie qui est importante, ils ont une modernisation qui, en un sens, est plus avancée que celle de l'Empire ottoman. Et ils vont amener avec eux, avec les Tatars de Crimée, les Azéris par exemple, l'idée, beaucoup vont émigrer dans l'Empire ottoman, et surtout après la répression de la Douma, après 1905, ils vont amener cette idée que face aux dangers russes, face au panslavisme, face à cette pan-orthodoxie, eh bien, les peuples turcs pourraient s'unir, c'est-à-dire de Kazan jusqu'à Istanbul et de Boukhara jusqu'à, disons, Alep.
1912-1913, les guerres des Balkans, les dernières possessions européennes de Turquie sont perdues, et puis la Grande Guerre qui va provoquer l'agonie de l'Empire ottoman, mais un empire gît ensommeillé dans les flancs de l'Asie qui serait un empire turc et que réveille le conflit d'aujourd'hui entre Poutine et Erdogan.
Depuis le mois de septembre, les incidents de frontières se multiplient entre Turcs et Russes. Une boule de feu traverse le ciel turc. Par moments, on distingue parfaitement la carlingue du Sukhoï russe qui tombe en piqué. Le chasseur-bombardier vient d'être abattu par deux avions F-16 turcs. Il aurait violé l'espace aérien de la Turquie. Ankara assure que 10 avertissements ont été envoyés avant que l'avion ne soit abattu.
Le conflit vient de loin, vous ne cessez de répéter cela, François Georgeon.
Oui. Mais enfin, c'est la première fois à ma connaissance qu'un avion russe est abattu, et c'est évidemment un problème important. Il y a eu toujours beaucoup d'accrochages entre les frontières, quand il y avait des frontières communes. Ça a continué encore à l'époque où la Turquie était le rempart de l'Occident face à l'URSS, et ça continue encore aujourd'hui, avec, évidemment, dans un contexte différent, avec la guerre en Syrie, avec le problème kurde, etc. Je ne crois pas, cela dit, que cet incident mène à quelque chose comme un nouveau conflit. Je crois qu'on en a compté 13 dans l'histoire. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un 14e.
Mais il y a suffisamment de motifs de tension en Turquie. On ne compte pas les attentats en Turquie. Ils se vivent à un rythme beaucoup plus accéléré que ce que nous connaissons, avec des sources encore moins identifiables. Merci à vous, François Georgeon. Je rappelle donc que le dictionnaire de l'Empire ottoman vient de paraître aux éditions Fayard, coordonné par vos soins et ceux de feu Gilles Weinstein, Nicolas Vatin et Elisabetta Borromeo. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparation Franck Olivard, Frédéric Martin, et à la technique, Julien Chabassu.